Le père Benoît m'avait dit, le thème cette année au mois de février, c'est l'amitié de Saint-Claude, etc. Alors, moi je me suis tourné vers mon Nouveau Testament et j'ai entendu la phrase de Saint-Jean au chapitre 15e, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Alors ce matin, je voudrais m'arrêter sur ce mot d'ami. Et demain matin, je m'arrêterai sur le deuxième membre, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Car là, on a une phrase bouleversante. Mais la première partie, c'est de me demander, mais qu'est-ce que c'est qu'un ami de Jésus? Et plutôt que de laisser partir mon imagination, comme vous êtes toujours tenté de le faire, moi, je voudrais beaucoup plus regarder dans l'évangile de Jean quels sont les amis de Jésus et voir un petit peu qu'est-ce qu'on apprend à travers eux de l'amitié à laquelle on est invité par Jésus. Alors, est-ce que vous connaissez des amis de Jésus dans l'évangile de Jean? Lesquels? Oui, Marthe, Marie et Lazare. De fait, on en parlera. C'est tout. Mais vous êtes endormi encore plus que moi, alors. Alors, de fait, les disciples, mais surtout, le disciple que Jésus aimait. Et on verra qu'on ne sait pas de qui il s'agit. Mais le disciple que Jésus aimait, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah ben vous êtes long, hein, au démarrage le matin. Alors il y a Pierre, parce que Pierre, qu'est-ce que Jésus lui dira à la fin de l'évangile? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Par trois fois. Donc là on aura vraiment quelque chose autour de l'amitié avec Jésus. Mais il y en a encore un extrêmement important. Vous... Ah non, dans l'évangile de Jean, Paul, il n'apparaît pas encore. Là, vous êtes un peu... Non, non, non. Là, vous faites marcher votre imagination, mais c'est dans l'évangile qu'il faut trouver. Il y a quelqu'un dont on nous dit qu'il est l'ami de l'époux. Ah, ben le voilà enfin, Jean le Baptiste. Et nous allons commencer par lui, par Jean le Baptiste. Et on va le rencontrer, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il nous apprend de cette amitié avec Jésus. Alors, c'est au chapitre 3e de Saint Jean, les versets 29 et 30. Je vous les lis. Celui qui a l'épouse est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il l'écoute, et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Eh bien là, vous avez quelque chose de bouleversant. Vous avez Jean-Baptiste qui se présente comme l'ami de l'époux. Alors, qu'est-ce que c'était qu'un ami de l'époux? C'était une mission tout à fait particulière. Lorsqu'on célébrait des noces, l'époux demandait à ses amis de devenir les compagnons de la chambre nuptiale, pour reprendre l'expression exacte. Et leur mission était d'aller dans la maison de l'épouse, de prendre l'épouse et de la mener jusque dans la chambre nuptiale. Et c'était l'ami de l'époux qui remettait l'épouse entre les mains de son époux. C'était vraiment un rite nuptial extrêmement important au Moyen-Orient, il y a un peu plus de 2000 ans. Alors, quand est-ce que Jean-Baptiste a rempli cette mission d'être l'ami de l'époux? Pas exactement, non.
Quand on lui a posé la question, est-ce que tu es le Messie ?
En réalité, vous avez un petit passage que je vais reprendre avant de revenir. Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. C'est vraiment le moment où Jean le Baptiste remet deux de ses disciples entre les mains de l'époux. Et c'est le commencement des noces entre le Christ et l'humanité. C'est vraiment un moment essentiel, car juste après, on nous dit « Jésus se retourna ». Et là, un jour, j'étais en train de lire ce passage, et puis j'ai été émerveillé. Jésus se retourna. Est-ce que vous êtes émerveillé aussi? Je n'ai pas l'impression du tout. Ah, alors allez-y, continuez. C'est que dans tout l'Ancien Testament, nul ne pouvait voir Dieu sans mourir. Sauf Moïse qui parlait face à face avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Mais chaque fois que quelqu'un voulait voir Dieu, et même Thérèse d'Avila, 15 siècles plus tard, Thérèse d'Avila, quand elle avait 5 ans, elle avait entendu dire que pour voir Dieu, il fallait mourir. Alors elle a pris son petit frère et tous les deux, ils ont quitté Avila pour aller se faire couper la tête par les morts. Mais heureusement, il y a un des oncles de Thérèse qui l'a trouvé en dehors de la ville et qui l'a ramené à la maison. Mais c'est vraiment... Alors, Jésus se retourna et voilà qu'enfin, il est donné à l'humanité de voir Dieu face à face. Vous avez les deux disciples qui suivent Jésus, tout d'un coup Jésus se retourne, et enfin je peux voir Dieu face à face. Alors ça c'est vraiment dans ce symbolisme cher à Jean, des toutes petites choses, mais qui en fait ont une portée étonnante. Voilà que maintenant il est donné à l'homme de voir Dieu en Jésus. Et quelques chapitres plus loin, au chapitre 14, je crois, il y a Philippe qui dira à Jésus, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus répondra, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Qui me voit a vu le Père. » Et là, c'est quelque chose qui rejoint ce début de l'Évangile. Car c'est vraiment un moment essentiel de ce contact avec le Christ. Et dans le Christ, je peux véritablement voir le Père. Parce que souvent, on se fait une fausse idée de Dieu. Si je pouvais prendre avec un appareil de photo hyper spécialisé, je prends les photos de toutes vos idées sur Dieu. Qu'est-ce que je découvrirais? Qu'elles sont toutes floues et toutes fausses. Parce que vous vous imaginez Dieu à partir d'un certain nombre. Par exemple, le Père, c'est typique que beaucoup de gens voient le Père du ciel en fonction de ce qu'était leur Père de la terre. Alors, si on avait un père qui était formidable, ça va, mais si c'est un père qui était horrible, alors je ne vous dis pas ce qu'on pense de Dieu. Mais c'est typique, ça. Alors, l'ami de l'époux, il remet l'épouse entre les mains de l'époux, et voilà les disciples qui partent derrière Jésus, et Jésus se retourne, et là, vous avez vraiment une rencontre bouleversante, mais qu'on reverra plus tard. Je reviens au chapitre 3e, et là, au verset 29, « Celui qui a l'épouse et l'époux, quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il l'écoute. » Et là, vous avez un élément extrêmement important pour nous tous, se tenir là et écouter l'époux, c'est-à-dire écouter Jésus. Mais ça, on y reviendra demain matin. Et ensuite, « Et la voix de l'époux le comble de joie. » Est-ce que la voix de l'époux vous comble de joie? Bof. Vous n'avez pas l'air un peu... Hein, c'est quand même un peu... C'est là où on voit que on n'a pas assez ruminé la parole de Dieu. Car c'est en la ruminant que cette parole, elle prend vie en nous. Elle prend chair en nous. Et moi, j'ose dire souvent... que chaque fois que je lis mon évangile, c'est Noël pour moi. Parce que la parole, le Verbe se fait chair en moi, il se fait vie en moi, et il vient habiter en moi. Et ensuite, telle est ma joie, elle est parfaite. Le fait d'écouter, de se tenir à côté de l'époux, d'écouter sa voix, eh bien ma joie est parfaite. Ben vous savez, on cherche la joie partout, sauf là où elle se trouve. Car la joie, la définition de la joie, c'est la répercussion dans un être lorsqu'il possède le bonheur infini. Et ben, lorsque on est à côté de l'époux, il se tient là, il l'écoute. La voix de l'époux le comble de joie, telle est ma joie, elle est parfaite. Et la conclusion importante pour nous tous, il faut qu'ils grandissent et que je diminue. Et là, vous avez un élément fondamental de notre être chrétien, c'est qu'il faut que Jésus grandisse en nous et que par contre, nous nous effacions devant lui. Ce que les autres évangélistes diront d'une autre manière, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il se dégage de lui-même pour mettre le Christ au cœur de sa vie. Mais ces deux versets de Jean, c'est du feu. Et moi, je vous invite à les ruminer, à les savoir par cœur, parce que c'est des paroles qui, si elles nous habitent, elles prennent vie en nous. Et comme Jean le Baptiste, eh bien, nous pouvons vraiment être bouleversés par cette intimité avec le Christ. En fait, demeurer avec lui. Après Jean-Baptiste, je voudrais m'arrêter sur quelqu'un d'autre. C'est Lazare, ça vous l'avez tout de suite dit. Lazare, c'est l'ami de Jésus. Et on nous dit justement que quand il apprend que Lazare est malade, Jésus, il attend 2-3 jours, il n'a pas l'air de s'affoler. Et puis, il dit, partons, alors on va regarder, c'est au chapitre 11e de l'évangile de Jean. Et la taube est la même indiquée comme titre, Jésus rend la vie à un mort. Et au verset 3, vous avez les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Celui que tu aimes. Et là, qu'est-ce qu'on sait de Lazare? Quasiment rien. On sait qu'il est le frère de Marthe et de Marie, mais c'est tout. Et par contre, Jésus peut dire, celui que tu aimes, Marthe peut dire, ou Marie, celui que tu aimes est malade. Eh bien, je trouve cette notation formidable, parce que c'est l'amour de Jésus pour tout homme, aussi anonyme soit-il. Quel que soit l'anonymat, on est aimé de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut réaliser. Aussi pauvre qu'un homme soit, il est toujours aimé de Jésus. Et on va même voir Jésus pleurer sur la mort de Lazare. Et là, c'est vraiment le cœur de Dieu qui est bouleversé et qui se traduit par des larmes. Les larmes de Dieu devant la mort de son ami Lazare. Et c'est quelque chose qui nous bouleverse, parce que vous vous rendez compte que Jésus a pleuré sur la mort de son ami Lazare, qui était un anonyme. Mais Jésus pleure sur la mort de l'homme. Mais de quelle mort il s'agit ? Pas seulement la mort physique, car en réalité, c'est la mort du péché qui sera l'essentiel pour le Christ. Et c'est de cette mort-là qu'il vient nous libérer. Mais vous avez tout l'épisode qu'il faudrait relire. Je vais en lire simplement un petit passage, le verset 33. Lorsqu'il les vit se lamenter, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit intérieurement et il se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils répondirent, « Seigneur, viens voir. » Alors Jésus pleura. C'est vraiment, Jésus a frémi intérieurement et il s'est troublé. Et on peut penser également qu'à ce moment-là, Jésus pense à la manière dont il va redonner la vie aux hommes. Il leur redonnera la vie comment ? Par sa croix. Et donc on comprend que Jésus soit troublé devant ce mystère de mort auquel il est confronté. Et d'ailleurs les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. Et là, vous avez on va découvrir la résurrection de Lazare, qui va sortir du tombeau vivant. Et entre parenthèses, les Juifs décideront de le faire mourir de nouveau, parce que c'était quand même embêtant pour tout le monde d'avoir un type qui a passé 3 jours dans un tombeau et qu'on a ressorti vivant. Alors les Juifs, ils vont décider de le mettre à mort. Mais maintenant, comme l'heure tourne, je voudrais regarder un autre ami de Jésus, celui que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait. Alors, j'entends toujours les chrétiens, quand je leur demande « qui est ce disciple ?», ils répondent « Saint Jean ». Eh bien, ce n'est marqué nulle part. Et je pense que c'est tout à fait volontaire, car chacun de nous, nous sommes invités à devenir l'ami de Jésus, celui que Jésus aimait. Et donc c'est important qu'à chaque scène où apparaît celui que Jésus aimait, eh bien nous puissions nous aussi nous y rendre et vivre ce qu'a vécu le disciple que Jésus aimait. Alors, quand est-ce qu'il apparaît dans l'évangile de Jean, le disciple que Jésus aimait ? Comment ? Alors, entre parenthèses, dans Saint Jean, il n'y a pas de récit de la scène. C'est simplement, il y a le dernier repas, et le disciple que Jésus aimait était assis à côté de Jésus, et Pierre va lui dire, quand Jésus annonce qu'un de vous me trahira, Eh bien, Pierre demande aux disciples que Jésus aimait, demande-lui qui c'est. Et le disciple que Jésus aimait va se pencher sur la poitrine de Jésus, et là, qu'est-ce qu'il va entendre? Et ici, à Parelmonial, on peut le dire en toute... Il va entendre battre le cœur de Dieu. Parce que le Christ, il est venu, il s'est fait homme pour ce moment-là, pour laisser déborder sa miséricorde sur le monde en nous apportant le salut. Et à ce moment-là, on peut vraiment affirmer que le cœur de Jésus, il bat de tout l'amour de Dieu pour chacun de nous et pour tous les hommes de tous les temps. Et ainsi, à chaque messe, je peux venir m'asseoir à côté de Jésus, car la messe, qu'est-ce que c'est? C'est l'actualisation pour aujourd'hui de l'unique sacrifice de la croix. Voilà, c'est l'actualisation pour aujourd'hui. Et tous nos pères dans la foi nous disent que chaque fois que je participe à l'Eucharistie, je suis plus près de la croix et de Jésus que ne l'était le centurion ou les soldats, parce que je communie pleinement à l'unique sacrifice de la croix. Et le disciple bien-aimé, quand est-ce qu'on va le rencontrer après le dernier repas? Au pied de la croix. Et au pied de la croix, il y avait qui? J'ai tendu un piège, vous êtes tombé immédiatement dedans. Car Marie n'est pas nommée dans l'évangile de Jean. C'est toujours la mère de Jésus. C'est la mère. C'est la mère qui est la mère de Jésus et qui va devenir la mère tout court. Car au pied de la croix, voyant le disciple qu'il aimait et voyant la mère, il n'y a même plus de proposition, de préposition, à ce moment-là, c'est l'évangéliste nous fait penser à qui la mère? À Ève et à la nouvelle Ève. Et c'est vraiment la nouvelle Ève qui va participer à l'engendrement du nouvel Adam par le mystère de la croix. Et le disciple que Jésus aimait, il est là au pied de la croix, à contempler ce mystère de la mort de Jésus, des dernières paroles de Jésus, car il entendra Jésus lui dire « Voici ta mère ». Et un peu plus tard, il va assister à la mort de Jésus, inclinant la tête, il donna l'Esprit. Avec un jeu de mots chez Jean, ça peut vouloir dire « donner l'Esprit Saint pour une nouvelle création », comme ça peut vouloir dire « remettre son esprit », c'est-à-dire mourir. Et avant, il y a une parole bouleversante que Mère Teresa a voulu faire mettre dans toutes ses chapelles, les chapelles de son ordre, c'est « j'ai soif ». Car en réalité, Jésus n'a pas soif, mais il a soif de notre amour à nous. Et Mère Teresa a de très belles paroles sur la soif de notre amour que Jésus exprime sur la croix. Alors après, troisième rencontre avec le disciple que Jésus aimait, voilà, au matin de Pâques, Marie-Madeleine, alors je reste dans l'évangile de Jean, hein. Marie-Madeleine et probablement quelques femmes vont au tombeau, elles voient que le corps n'est plus là, elles courent le dire à Pierre, et Pierre et le disciple que Jésus aimait partent en courant. Et on nous dit, le disciple que Jésus aimait arriva le premier, mais il n'entra pas. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas entré? Parce qu'on ne peut entrer dans le mystère de la résurrection qu'avec l'Église. Et Pierre est le symbole même de la présence de l'Église qui nous permet d'entrer dans ce mystère insondable. Parce que je ne sais pas si vous imaginez ce que ça a pu être pour les premiers disciples. Nous, on est habitués, on sait qu'il est ressuscité il y a 2000 ans, mais le matin de la résurrection... Ils ont dû dire, mais qu'est-ce qui se passe? On a enlevé le corps de Monseigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Si c'est toi qui l'as pris, dis-le-moi, puis j'irai le reprendre. Ça, c'est les paroles de Marie-Madeleine. Et donc, au moment où Pierre entre, il voit les linges pliés, avec le sundarion, c'est-à-dire le linge qui recouvrait la tête, il y avait le suaire et puis il y avait un linge qu'on mettait sur la tête. Et le sundarion, ce linge-là, était plié à part. Mais Pierre, on ne nous dit pas qu'il a cru. Et l'autre disciple entre à ce moment-là, et vous avez deux verbes, il vit et il crut. C'est vraiment le premier acte de foi dans le mystère de la résurrection de Jésus. C'est le disciple que Jésus aimait qui va entrer dans la plénitude de « il vit et il crut ». Alors, je vous rappelle que « croire », c'est un verbe très difficile. Parce que si je vous demandais rapidement, qu'est-ce que ça veut dire « croire » ? Maintenant, vous devenez silencieux, hein, parce que vous allez vous faire allumer, alors vous préférez ne pas répondre. Comment ? Eh non. Alors, il vous manque un réflexe que je voudrais essayer de vous donner pendant ces trois jours à Paray-le-Monial. C'est le réflexe, quand vous cherchez à comprendre quelque chose, allez voir dans les évangiles. Ne faites pas marcher votre imagination, elle vous emmène n'importe où. Mais par contre, si vous lisez l'évangile de Jean de A à Z, vous allez découvrir que Jean, il savait très bien que ça serait difficile de comprendre ce que croire veut dire. Alors, il n'arrête pas de mettre des petites incises pour nous expliquer ce que croire veut dire. Dès le verset 11, « À ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Ceux qui l'ont accueilli, ceux qui croient en son nom. Croire en son nom, c'est l'accueillir. Après, vous aurez « Croire, c'est demeurer auprès de Jésus. » Croire, c'est écouter sa parole. Croire, c'est manger son corps et boire son sang. Et ainsi, vous avez toute une série de petites incises qui nous montrent d'abord que croire est l'activité essentielle du disciple de Jésus et que croire, c'est vivre dans l'intimité de Jésus. Et dans l'évangile de Jean, ça sera même passé d'un demeurer auprès de lui à un demeurer en lui. Mais c'est étonnant de voir comment l'évangile explique l'évangile. Et vous cherchez toujours n'importe où des trucs aussi tordus que possible, alors que c'est tout simple. Croire, c'est l'activité essentielle. Et Jean n'emploie jamais le mot de foi, sauf une fois, mais dans un tout autre sens. Pourquoi ? Parce que pour lui, croire, c'est une activité. C'est l'activité du disciple. Et comme c'est difficile, eh bien, il va nous expliquer en quoi consiste cette activité. C'est de vivre avec Jésus en permanence. Alors, est-ce qu'on rencontre encore une fois le disciple que Jésus aimait dans l'évangile de Jean ? Ah, ils ne connaissent pas leur évangile. Non, c'est dans Saint-Luc, ça. Ah oui, oui, ça c'est... Paco, il sait ça, alors... Ça, Paco, il n'a pas le droit de répondre. Hein ? Ah, voilà, Jean 21, ils partent pour... Il y a Pierre qui dit aux autres, je m'en vais à la pêche. Alors, il y en a quelques-uns qui lui disent, on va avec toi. C'est des choses toutes simples. Alors, ils partent, et ils passent la nuit la nuit sans rien prendre. Au petit matin, il voit un homme qui est assis au bord du lac et qui est en train, avec un feu devant lui, en train de cuire quelque chose. Et cet homme, excusez-moi, mais j'ai oublié d'arrêter mon téléphone. Et cet homme au bord du lac qui leur dit, les enfants, avez-vous quelques poissons, quelques petits poissons? Et ils répondent, non, on n'a rien pris, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Et à ce moment-là, l'homme leur dit, mais jetez le filet à droite et vous prendrez. Et ils remplissent le filet. Et là, qui réagit le premier? C'est le disciple que Jésus aimait. Et il réagit en disant, c'est le Seigneur. Ça nous montre comment l'amour de Jésus nous permet de découvrir sa présence. Moi, je suis persuadé que Jésus, il est présent partout au cœur de la création. La nature, on nous dit dans la Bible qu'il l'a laissée marquée de son sceau, parce que c'est lui qui a tout créé, c'est en lui que tout a été créé. Donc il y a une présence du Verbe, et puis il était la vie. Donc en chacun de nous, il y a quelque chose du Verbe. Et on doit arriver à découvrir combien Jésus est présent partout, dans les plus pauvres. Mais ça, je vais chez saint Matthieu, donc je m'arrête. Alors après, il y a un autre ami de Jésus qui s'appelle... Alors, on peut dire un mot sur les disciples au début de l'évangile. Quand Jésus se retourne et il leur dit, parce que ça c'est un dialogue à savoir par cœur, que cherchez-vous? Réponse, Maître, où demeures-tu? Jésus répond, venez et voyez. Ils vinrent et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la sixième heure. Et là, c'est quand même merveilleux. Que cherchez-vous? Et vraiment, qu'est-ce qu'on cherche, nous, dans notre vie? Quel est le but de notre vie? Ben, normalement, le but de notre vie, ça devrait être de nous préparer à notre éternité. Or, souvent, le but de notre vie, c'est d'accumuler des biens pour nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est bien, mais ce n'est pas le but de la vie. Alors, c'est vraiment, que cherchez-vous? Qu'est-ce qui vous fait vivre? Et il y a deux autres fois dans l'évangile de Jean, cette question. Au moment où on arrête Jésus, Jésus leur dit, quand il y a Judas et les autres, qui cherchez-vous? Et ils répondent, Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce que dit Jésus? Alors c'est faux, parce que c'est moi, c'est ne pas avoir compris le sens de ces mots. C'est ego eimi en grec, c'est je suis. C'est le nom de Dieu. En fait, ils cherchent l'homme de Nazareth et ils ont en face d'eux Dieu lui-même. Alors c'est toujours sur qu'est-ce qui nous fait vivre, que cherchons-nous? Et puis au matin de Pâques, quand Marie-Madeleine rencontre un type qu'elle prend pour le jardinier, mais est-ce qu'elle a raison de dire le jardinier? Ben oui, pourquoi? Parce que c'est le nouvel Adam qui va jardiner la nouvelle création. Donc en fait, c'est dans saint Jean, tous les mots ont un sens extrêmement fort. Et Jésus va lui dire, que cherches-tu? Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Elle va répondre, si c'est toi qui l'as enlevé. Et Jésus se fera reconnaître en l'appelant par son nom, Myriam. Et c'est vraiment Ce qui cherches-tu, c'est quelque chose qu'il faut ruminer en nous, parce qu'on a toujours à se demander qu'est-ce qui me fait vivre, quelle est la source de ma vie. Et là, maintenant, après ça, ils vinrent et ils demeurèrent. Ce verbe demeurer, c'est vraiment un verbe qui court tout l'évangile de Saint Jean. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Mon Père l'aimera, nous ferons chez lui notre demeure. En fait, on est appelé à devenir la demeure de Dieu. Alors, ce verbe demeurer, ben, vous pouvez une fois vous amuser à lire, enfin, vous amuser, lire l'évangile de Jean uniquement en soulignant ce verbe demeurer. Vous verrez qu'il arrive des centaines de fois dans l'évangile. Alors maintenant, comme il ne me reste que quelques minutes, quel est le dernier ami de Jésus que je dois rencontrer ? Pierre, m'aimes-tu ? Alors malheureusement, dans le texte français, il est très difficile d'y voir clair, car en français, on n'a qu'un verbe pour dire « aimer d'amitié » ou « aimer d'amour ». C'est toujours le verbe « aimer ». Alors qu'en grec, on a « agapao » pour « aimer d'un amour fort » et on a « phileo » et « j'aime d'un amour d'amitié ». Et ici, Jésus dit à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Alors, dans cette triple interrogation de Jésus, il faut bien penser au triple reniement de Pierre. Et ce triple reniement de Pierre, il nous faut le comprendre. Parce que Pierre, quand il dit « ce type-là, je ne le connais pas », il a raison. Car il n'a rien compris, Pierre. Il était prêt à mourir avec Jésus, mais les armes à la main. Et il voit en face de lui une locumène qui se laisse bafouer, on crache sur lui, etc. Une locumène, alors il ne comprend plus. Et il dit « ce type-là, je ne le connais pas ». Et il va le répéter par trois fois. Et c'est vraiment pour nous faire comprendre qu'entrer dans le mystère de la croix, ce n'est pas évident du tout. Car regarder ce Fils de Dieu qui n'a plus visage humain, qui porte le péché des multitudes, pour reprendre les mots du prophète Isaïe, eh bien, quelle vision de Dieu. Et, entre parenthèses, quand dans la liturgie chrétienne, on fête le Christ, roi de l'univers, nous, on pense à quelqu'un qui domine, qui règne, etc. Or, son trône, c'est la croix. Sa couronne, c'est une couronne d'épines. Et tout le monde le bafoue au lieu de lui rendre hommage. C'est quand même étonnant. Et Jésus a pu dire lui-même, « Élevé de terre, continuez, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est là où on voit le salut universel qui jaillit de la croix du Seigneur. Et c'est tout simple, parce que par sa mort sur la croix, le Fils de Dieu met fin à toutes les conséquences du péché. Et sortant vivant du tombeau, il nous invite à trouver la vie en lui. Et c'est en lui qu'on a la vie. Alors c'est là où les chrétiens ont un mal fou à réaliser, que désormais ma vie, elle est dans le Christ. Je ne peux pas vivre autrement, sinon je suis un mort vivant. Et dans la rue de la République, le samedi après-midi, parfois ça m'arrive de me dire, mais ils sont tous des morts vivants aujourd'hui. Là. Peut-être pas tous, mais bon, quel monde païen. Et alors, Jésus dit à Pierre au lendemain de la résurrection, « Simon, fils de Jean, bar Yona, m'aimes-tu ?» Alors, d'un véritable amour d'agapé. Et Pierre répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime d'amitié, philéo, je suis ton ami. » Et une deuxième fois, Alors la première fois, Jésus lui dit « Paix mes agneaux ». Une seconde fois, Jésus lui dit « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? C'est encore agapao ?» Et il répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Et là, c'est philéo. Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Et il ajoute, « En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Voilà, eh bien, moi je vous invite, car il est le temps de m'arrêter, je vous invite vraiment à prendre du temps pour relire la parole, mais ça sera l'objet de l'enseignement de demain matin. Paco prendra le relais cet après-midi. Voilà, et on se retrouve à 11h05 dans la chapelle de la Visitation.